Bonjour à tous. Alors, il paraît que je dois me présenter, vu l'absence de notre ami Daniel, qui devait présider ce matin, qu'on salue chaleureusement. Alors, je m'appelle François, marié à Anne, trois filles et trois petits-enfants, jardinier devant l'Éternel. Et puis, pour ce qui est du spirituel, vous consultez le livre de vie, mais je crois qu'il est encore fermé. Il y a tous mes exploits qui sont marqués dedans, j'espère. Vu les tragiques circonstances qui nous parviennent et que nous connaissons tous, merci pour ta prière, Béatrice. J'avais envie de traiter le thème du sang innocent. Et je vous propose une première lecture dans Genèse 4, versets 1 à 11. Alors, je vais lire dans ma version, mais vous pouvez découvrir le texte peut-être un peu différemment. Adam eut des relations conjugales avec sa femme Ève. Elle tomba enceinte et mit au monde Caïn. Elle dit : J'ai donné vie à un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle mit encore au monde le frère de Caïn, Abel. Abel fut berger et Caïn fut cultivateur. Au bout de quelque temps, Caïn fit une offrande des produits de la terre à l'Éternel. De son côté, Abel en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et il arbora un air sombre. L'Éternel dit à Caïn : Pourquoi es-tu irrité et pourquoi arbores-tu un air sombre ? Certainement, si tu agis bien, tu te relèveras. Si en revanche tu agis mal, le péché est couché à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais c'est à toi de dominer sur lui. Cependant, Caïn dit à son frère Abel : Allons dans les champs. Et alors qu'ils étaient dans les champs, il se jeta sur lui et le tua. Premier crime contre l'humanité. L'Éternel dit à Caïn : Où est ton frère Abel ? Il répondit : Je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère ? Dieu dit alors : Qu'as-tu fait ? Le sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Désormais, tu es maudit, chassé loin du sol. Enfin, on va s'arrêter là. Et la deuxième lecture, c'est dans Hébreux 11:4. Je crois que je vais lire le texte comme vous. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. J'ai donné vie à un homme avec l'aide de l'Éternel, verset 1. Littéralement, j'ai acquis un homme. Le nom de Caïn, en effet, signifie en hébreu acquisition, possession. Le premier enfant de l'humanité est possédé par la mère de toutes les mères, Ève. Sur lui repose, comme souvent sur les aînés, l'avenir de l'humanité. Humanité que l'on sait déchue par le péché originel dans le chapitre d'avant. Cette détermination de son nom et du rôle qu'on lui attribue va développer chez Caïn un instinct de propriétaire. Il devient agriculteur. Il sème, il plante, il arrose et il fait fructifier la terre. Il est le père de cette période de l'histoire que l'on nomme le néolithique et dont les antiques traces se situent archéologiquement parlant en Mésopotamie à l'est d'Éden, comme dit la Bible. Dieu, lieu où finissent Adam et Ève après la chute. Les descendants de Caïn sont dans le livre de la Genèse une lignée de bâtisseurs, de villes, avec des talents multiples. Ils maîtrisent la métallurgie, l'artisanat, Il manipule les matériaux, il fabrique des armes solides et durables. Il fonde des villes et s'y installe pour acquérir des biens et les transmettre à leurs enfants. Ils inventent l'écriture dite cunéiforme sur des tablettes qui sont les ancêtres de nos écrans d'ordinateur. Le monde de Caïn, il est fait pour durer. Caïn est le père de la civilisation du progrès. Il est l'incarnation de notre monde productiviste, progressiste et consumériste, avec cet adage bien connu du temps de Noé, « Mangeons, buvons, car demain nous mourrons ». Abel, en hébreu « Avel », signifie « brouillard », »,« évanescence », »,« simple buée ». En devenant berger d'un menu troupeau, Abel entre dans l'identité d'un nomade, ce que nous sommes en tant qu'Église. Il ne s'installe nulle part, il ne connaît pas de propriété, il est sans ancrage, il est enraciné nulle part, il entre dans des terrains inconnus selon les besoins de son troupeau. Et finalement, il sort de l'histoire, assassiné par son frère. Il disparaît comme une simple buée. Cependant, le texte biblique nous dit que son sang hurle vers Dieu depuis les profondeurs de la terre. En fait, le texte original hébreu ne parle pas du sang d'Abel, mais de sa forme plurielle. Les sangs d'Abel hurlent vers Dieu. Autrement dit, Caïn, l'assassin d'Abel, n'a pas simplement tué un homme, mais toutes les générations qui auraient dû lui succéder. Tout ce qui aurait pu être et qui n'a pas été. Toutes les traces historiques d'Abel ont disparu et il n'a rien pu transmettre à ses propres générations futures. À chaque fois que l'on tue un petit être prénatal, à l'ennemi armé en face, conscrit qu'il soit russe ou ukrainien, en passant par les terribles génocides de l'histoire et j'en passe, les sons de chacun hurlent depuis les profondeurs de la terre vers Dieu. C'est pourquoi nous devons comprendre que la seule porte de sortie à cette fatalité se résume en deux phrases prononcées par Jésus-Christ. La première au dernier repas avec ses disciples, où quand il leur tend une coupe de vin, il leur dit ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour vous, pour beaucoup, pour le pardon des péchés, buvez-en tous. Matthieu 26, 27, 20, 27 et 28. 26, versets 27 et 28. Et puis cette parole de Jésus sur la croix, alors que son sang coule de ses pieds et de ses mains transpercées, Père, pardonne, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors aujourd'hui, si notre conscience, si ta conscience te fait remonter un événement tragique, si ta conscience t'enferme dans une culpabilité accusatrice, il y a pour toi une porte de sortie. Le pardon de Jésus-Christ accordé dans une prière de confession, où ta faute est effacée par son sang versé par la croix. C'est le sang innocent. Et je t'invite à ne pas renvoyer à plus tard cette porte de sortie, mais en toute discrétion, dans le secret pastoral, les pasteurs sauront t'accueillir avec l'amour de Dieu qui demeure sur toi et prier pour cette étape qui peut-être ressort aujourd'hui. Je voudrais revenir sur l'ADN spirituel d'Abel. Le texte aux Hébreux, lui, nous dit que la foi d'Abel parle encore bien qu'il soit mort, et que la nature du sacrifice qu'il a offert à Dieu l'a fait déclarer juste, contrairement à son frère Caïn. En quoi consiste cette différence qui m'a, je vous l'avoue, à l'âge de 7 ans, quand j'ai eu les oreillons, on m'a donné la Bible de Anne de Vrille, et cette histoire m'a toujours traumatisé en tant que frère aîné d'un cadet. Nous étions deux. Dans le récit de la Genèse, il nous est dit que Caïn offre au Seigneur les produits de la terre. On imagine donc des fruits et des légumes. Pour tous ceux qui ont jardin, on sait que la terre est généreuse, qu'elle est très productive. Souvent, moi, je cours chez mes voisins pour leur proposer des tomates, des salades, des melons, des raisins, à cause de la profusion de mes récoltes. Mon congélateur est plein et avec la retraite, j'ai encore le temps de conditionner des légumes en bocaux pasteurisés. Je soupçonne donc Caïn d'avoir fait avec Dieu comme moi avec mes voisins, offrir le surplus de ma production. Alors que la nature de l'offrande d'Abel est diamétralement opposée. Elle est composée de plusieurs agneaux premiers-nés et de leur graisse. N'oublions pas ce détail. Moi, j'ai eu l'occasion de côtoyer des nomades dans le désert. Leur morphologie est à l'opposé de mon embonpoint. Et n'en déplaise aux véganes, leur survie dépend souvent de cette alimentation animale protéinée dont ils usent avec une très grande modération. J'ai eu l'occasion, lors d'un repas festif, de goûter un méchoui au feu de bois. J'en ai encore l'eau à la bouche. Les premiers agneaux, avec leur graisse, qu'offre Abel, Dieu, il en a l'eau à la bouche. Et il offre le premier, le meilleur de sa production. Alors, les agneaux premiers-nés, c'est le soulagement pour le berger. À la sortie de l'hiver, c'est le signe que le futur de son troupeau est assuré pour l'année à venir et en manger lui permet de se reconstituer physiologiquement après un hiver frugal. Abel donne au Seigneur le meilleur de lui-même, contrairement à Caïn qui, calculateur, offre ses surplus. Mais pour nous chrétiens, pour nous, Église, peuple nomade, peuple de Dieu, le Père nous a offert le meilleur de lui-même, son Fils Jésus, qui par son sacrifice est devenu lui-même l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et je vous propose de lire Hébreux 12, 22 à 24. Vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tout, les esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Un meilleur message que celui d'Abel, le sang purificateur de Jésus. Dans l'Ancien Testament, dans Deutéronome 27, 25, il est dit « Maudit soit celui qui répand le sang ». On est dans l'Ancien Testament. Mais Deutéronome 19 prévoit une porte de sortie. En cas de mort provoquée par accident, le coupable pouvait s'abriter dans une des trois villes refuges qui étaient réparties sur le territoire d'Israël et qui permettait aux coupables de se réfugier et d'échapper à la vengeance du sang, du jugement et de la mort. Et là, les autorités de cette ville procédaient à une enquête et au jugement face aux familles des victimes, de la victime, aux victimes de ce, ouais. Aujourd'hui, ce sont les communautés chrétiennes qui servent de ville-refuge, comme la nôtre. Elles sont dépositaires par procuration de cet accès du sang purificateur de Jésus qui suffit pour chacun et du signe de l'amour de Dieu qui est déposé sur chacun. Elles sont donc les portes ouvertes qui exercent cet accueil, cette écoute de Dieu le Père et du pardon de Jésus-Christ. Cependant, elles sont de plus en plus menacées et bâillonnées. L'indice de persécution des chrétiens dans le monde a pris une ascendance vertigineuse, emprisonnement, torture, bannissement de métiers dans la fonction publique ou universitaire, ou alors carrément exécution à mort, mise à mort. C'est un lourd tribut que paye dans plusieurs pays l'Église de Jésus-Christ. Mais c'est aussi le sang innocent des martyrs. Lui aussi, ce sang crie au Seigneur. Et dans Apocalypse 6, 9 à 11, nous lisons « Quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel les armes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant « Jusqu'à quand, Maître, saint et véritable, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre. Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. » Un cri qui dit « Jusqu'à quand, Seigneur saint et véritable ?» Tarderas-tu à faire justice et à venger notre sang? Les martyrs que la Bible appelle les justes, comme Abel le juste, leur sang crie aujourd'hui, depuis les tréfonds de la terre, pour réclamer à Dieu justice. Alors faut-il attendre Apocalypse 21, le jugement dernier, où il nous est dit que Dieu sera lui-même avec eux, qu'il essuiera toute larme de leurs yeux, effacera jamais tout deuil, tout cri, toute douleur? Une guerre comme en Ukraine, c'est des dizaines de millions de traumatismes sur 3 à 4 générations. C'est des millions de deuils, de cris et de douleurs. Mais pour ce cri des saints, pour ce cri des justes, pour ce cri des martyrs, Dieu a une réponse immédiate. Il nous est dit au verset 11, « Une robe blanche de fin lin leur fut donnée. » Et Apocalypse 19, 8 précise que ce fin lin éclatant et pur, c'est le signe des œuvres justes des saints. Comme l'a dit si bien Christian il y a quelques semaines à propos d'une prédication sur Étienne, nous ne sommes pas tous appelés à mourir martyrs. Mais nos œuvres de juste nous poursuivent. Elles sont reconnues par le Seigneur pour autant que notre adoration ait le poids de celle d'Abel. Celui de donner à Dieu le meilleur de nous-mêmes, le meilleur de notre temps, le meilleur de notre argent, de notre attention. C'est pourquoi l'Église des justes dans Apocalypse est une armée d'adorateurs, comme Abel, le juste adorateur. J'aimerais conclure par une dernière précision. On pourrait comprendre cette prédication comme un dualisme. D'un côté, Caïn, la civilisation déchue, du mal, condamné à l'enfer, et de l'autre, Abel, le juste, le bien, les chrétiens. Et j'aimerais qu'on lise les deux derniers versets 25 et 26 du chapitre 4 de la Genèse. Adam connut encore sa femme, elle enfanta un fils, elle l'appela du nom de Seth, car dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Seth eut aussi un fils, il l'appela du nom d'Enoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. À travers ce nouveau fils, prénommé Seth, Dieu crée une nouvelle lignée de l'humanité, dont il nous est dit qu'à travers elle, on commença à faire appel à Dieu. Autrement dit, il existe aujourd'hui autour de nous des gens sincères, chercheurs de vérité, chercheurs de Dieu. C'est pourquoi nos communautés ont cette vocation d'être pour eux les villes refuges, où s'exerce l'adoration, la délivrance, le pardon et le salut. Et ceci pour que toute la descendance de Seth, qui cherche aujourd'hui un sens au sens de sa propre vie, trouve une réponse dans la grâce de Dieu, dans l'amour de Dieu et dans la maison du Père que nous représentons ici. Que Dieu nous bénisse. Amen. Je veux encore prier. Seigneur, il était invoqué trois sortes de sons. Il y a celui d'Abel, avec son sens du sacrifice juste. Il y a surtout celui de notre Seigneur, qui est définitivement l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde et qui un jour jugera les nations, mais aussi nos personnes. Et puis il y a aussi ceux qui sont morts pour leur foi et à qui tu les revêts d'une robe éclatante et resplendissante et pure de fin lin. Nous voulons rester, Seigneur, de justes adorateurs qui donnent leur vie quand tu nous le demandes, peut-être par des petits sacrifices justes, mais qui te sont agréables. Nous voulons être ce peuple de rachetés qui t'attend et qui crie à toi aussi jusqu'à quand? Jusqu'à quand toutes ces horreurs et toutes ces injustices, toutes ces larmes et tous ces cris? Reviens, Seigneur, reviens bientôt. Et puis ce matin, vraiment, nous pouvons fonder encore une fois notre espérance sur tout ce que tu as accompli à travers Jésus, à travers son sang, avec cette coupe de la nouvelle alliance qui est suffisante pour effacer tout passé difficile, toute culpabilité possible et toute condamnation. Alors Seigneur, merci de ce que nous demeurions sous le sang précieux de l'agneau, les uns et les autres, et que nous entrions aussi dans cette vocation de ville-refuge pour accueillir les descendants de Seth, cette lignée de chercheurs de Dieu, de chercheurs de vérité que tu as permis à travers le troisième enfant d'Ève. Et pour qui la grâce est encore ouverte et possible. Sois loué, Seigneur. Amen.